Un journal présenté ce soir par Tara Schlegel. Bonsoir Tara.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Dépassé, ce n'est plus ce que veulent nos concitoyens. L'Élysée verdit obstinément sa politique et annonce l'abandon du projet Europa City, un immense complexe commercial et de loisirs qui aurait dû ouvrir ses portes en 2027 dans le Val d'Oise. Analyse et réaction avec Anne-Laure Chouin dans un instant. 43% des personnes accueillies par le Secours catholique sont des étrangers. Marie Viennot reviendra sur le rapport annuel alarmant de l'association caritative. Nos jeudis des municipales, depuis ce matin, nous sommes à Lyon avec ce soir le portrait du maire sortant de Villeurbanne. À l'étranger, ou plutôt chez nous en Europe, la petite phrase d'Emmanuel Macron, l'OTAN est en état de mort cérébrale. Elle sera analysée par Nathalie Hernandez. Et puis nous irons à la fin de ce journal dans le camp d'Al-Mari en Cisjordanie, après la démission subite du patron de l'agence qui gère pour les Nations Unies le sort des réfugiés palestiniens. Ils avaient déjà abandonné l'idée d'installer une piste de ski artificielle pour verdir leur projet d'Europa City. Ils voulaient replanter 4000 arbres, recréer 80 hectares d'espace naturel, mais cela n'aura pas suffi. L'Élysée a décidé de mettre son veto au projet Europa City, un gigantesque centre commercial et de loisirs coincé entre les aéroports de Roissy et du Bourget, projet porté par la filiale immobilière d'Auchan et par un groupe chinois. Bonsoir Anne-Laure Chouin.
Bonsoir Tara.
Emmanuel Macron a donc tranché lors du Conseil de défense écologique, une sorte de conseil des ministres restreint qui veut donner la priorité à la transition écologique. Le gouvernement abandonne donc ce projet pharaonique qui aurait pesé 3 milliards d'euros d'investissement qui devait ouvrir en 2027. Sur place, on imagine, Anne-Laure, combien les avis sont tranchés.
Et particulièrement du côté des élus du Val d'Oise, notamment le maire de Gonesse qui porte ce projet depuis le début et qui parle d'un coup de poignard dans le dos pour Jean-Pierre Blasi. Ces 3 milliards d'euros d'investissement, c'était la promesse de milliers d'emplois pour les jeunes du territoire du triangle de Gonesse.
L'État a donné sa parole à notre territoire depuis 2007, depuis les émeutes de Villiers-le-Bel. Parole donnée par Nicolas Sarkozy, confirmée par François Hollande. Nous sommes un territoire, l'Est du Val-d'Oise, qui s'apparente à la Seine-Saint-Denis. On parle beaucoup de la Seine-Saint-Denis, on oublie l'Est du Val-d'Oise. Et aujourd'hui, l'Est du Val-d'Oise, à travers cette décision, est sacrifié.
Jean-Pierre Blasi qui dit ne pas croire une seconde au projet alternatif que s'est pourtant engagé à faire émerger l'Élysée, un projet qu'Emmanuel Macron souhaite, je cite, plus moderne, plus mixte, sans créer un pôle démesuré de consommation de loisirs et d'objets. Et pour mettre en place ce projet en concertation avec les élus, précise l'Élysée, il a missionné Francis Roltanguy, haut fonctionnaire spécialiste de transport et d'urbanisme. Une personnalité qui a plutôt la confiance des opposants à Europa City. Mais ces derniers ont la victoire prudente. Pour Jean-Yves Soubin, si cette décision d'annuler purement et simplement le projet Europa City est un symbole fort, ça ne signifie pas que ces terres fertiles resteront bien agricoles.
Notre crainte, c'est qu'à la place d'Europa City, on nous propose quelque chose de pire. Un bétonnage, comme il s'en est fait dans le sud du triangle de Gonesse, des entrepôts sans emploi, entièrement automatisés et qui servent à entreposer des colis et à trier des colis. De toute façon, nous, on dit qu'à cet endroit-là, il n'est pas possible de faire grand-chose, si ce n'est garder les terres agricoles, parce que ça, c'est une urgence et climatique et une urgence d'autonomie alimentaire pour la région Île-de-France. C'est le seul projet qui nous paraît véritablement un projet du 21e siècle et viable pour le triangle de Gonesse.
Zéro artificialisation des sols du triangle, c'est ce que souhaite toujours le comité pour le triangle de Gonesse. Zéro artificialisation nette des sols, c'est aussi l'objectif que s'était fixé la France dans son plan biodiversité.
Merci Anne-Laure Chouin. Sitôt dit, sitôt fait, hier le gouvernement a annoncé un durcissement de sa politique migratoire et à ce titre une évacuation avant la fin de l'année des campements insalubres de migrants. Dès ce matin, à l'aube, à Paris, ce sont 1600 hommes, femmes et enfants qui ont été délogés des deux emplacements où ils avaient trouvé refuge, autour de la porte de la Chapelle et de Saint-Denis. Ils ont été conduits vers 16 lieux d'accueil, des gymnases, notamment pour les hommes seuls. L'opération qui a mobilisé 600 policiers s'est déroulée dans le calme. La mise à l'abri, comme disent les autorités, s'est néanmoins soldée par une cinquantaine d'arrestations, porte d'Aubervilliers. Aucune précision pour l'instant quant au statut des personnes arrêtées. Les sans-papiers, toujours plus nombreux justement à fréquenter le Secours catholique. L'association a accueilli l'année dernière 1 300 000 personnes. Comme elle le rappelle dans son rapport annuel, et pas loin de la moitié d'entre elles, 43% plus précisément, sont des personnes d'origine étrangère. Bonsoir Marie Viennot.
Bonsoir.
Des étrangers en très grande précarité, raconte l'association.
Oui, l'augmentation de la proportion d'étrangers parmi les personnes aidées et accueillies au secours catholique est continue depuis 10 ans, mais elle est plus nette depuis 2016 et augmente de 3% par an. Alors ce sont surtout des hommes jeunes et plus diplômés que les autres publics. Pourquoi sont-ils de plus en plus nombreux? L'association se garde bien de rentrer dans le débat sur l'immigration clandestine. Son secrétaire général Vincent Destival.
Nous, on reçoit tout le monde, hein, donc on se préoccupe pas de savoir quel est leur statut, quelle est leur situation, comment ils sont enregistrés. On reçoit vraiment tout le monde. Et ce qu'on constate, c'est que les procédures pour obtenir une situation stable sont de plus en plus longues. Et c'est pour ça qu'on accueille de plus en plus d'étrangers et que très souvent, dans ces procédures, notamment pour les demandeurs d'asile, ils n'ont pas la possibilité de travailler, donc ce sont des personnes qui très souvent n'ont aucune ressource, et donc c'est pour ça qu'elles viennent nous voir.
En 2010, le Secours catholique recensait 8% de personnes sans droit au travail, 16% en 2017 et 20% en 2018. Or, l'inactivité est le premier vecteur de pauvreté. 55% des personnes qui vont voir le Secours catholique sont inactives, c'est-à-dire étrangers sans papier, étudiants, en inaptitude santé, retraite, pré-retraite ou au foyer. 29% sont au chômage et 16% ont un emploi, le plus souvent précaire, mais 4% quand même ont un CDI. Alors, le Secours catholique note aussi que de plus en plus de personnes ayant un niveau d'études supérieur ont besoin de son soutien. Ils sont 16% au-dessus du bac à avoir franchi ses portes en 2018, 6 points de plus qu'il y a 10 ans.
Merci Marie Viennot. Et puis j'ajoute que 73% des personnes interrogées ont une mauvaise opinion de la politique du gouvernement en matière d'immigration. C'est du moins ce que nous apprend un sondage Odoxa Dentsu Consulting pour France Info et Le Figaro qui vient de paraître à l'instant. 27% auraient une bonne opinion. Et dans le détail, ce sont bien sûr les sympathisants, les marcheurs qui ont une bonne opinion à 68%. En ces temps de polémique sur le port du voile et de manifestations contestées contre l'islamophobie, le gouvernement se montre aux côtés des musulmans morts pour la France. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu aujourd'hui à la Grande Mosquée de Paris, où se tenait une cérémonie à l'occasion du 101e anniversaire de l'armistice de 1918. À tous les promoteurs de haine, je n'ai qu'un message, a dit Christophe Castaner, venez ici voir la réalité de l'engagement des soldats musulmans pendant la Grande Guerre. Le financement des campagnes du Front National s'est-il fait au détriment de l'État? Deuxième jour du procès qui juge à Paris 7 prévenus et 3 personnes morales, dont le parti frontiste qui a depuis changé de nom. Marine Le Pen n'est pas poursuivie dans ce dossier qui implique plusieurs de ses proches. En résumé, il s'agit de savoir si le FN et ses soutiens, via son micro-parti Jeanne et via l'agence de communication Riwal qui lui est très proche, ont surfacturé plusieurs prestations et se sont en substance rendus coupables d'escroquerie. Au tribunal correctionnel de Paris, nous retrouvons en direct Antoine Marette.
Et c'est Valran de Saint-Just qui a été entendu aujourd'hui, un homme affable, habitué des prétoires, ce catholique traditionnaliste et lui-même avocat. Il a défendu à de nombreuses reprises le Front National. Cette fois-ci, il comparaît donc aux côtés de son parti pour s'expliquer sur ses fameux kits de campagne. Dans une déclaration préalable, il donne le ton. J'ai adhéré au Front National en 1987. J'ai fait ma première campagne à Paris en 89 contre Jacques Chirac. Depuis, je me suis présenté à toutes les élections, sauf la présidentielle, car il y avait de la concurrence. Rire dans la salle. Le trésorier du FN, devenu RN, raconte la genèse de l'association Jeanne. Les législatives catastrophiques de 2007, le contentieux judiciaire avec l'imprimeur Fernand Le Rachinel, la dette inquiétante du parti. Il faut donc tout réorganiser. D'où la création de Jeanne, juste avant les cantonales de 2011. L'association n'a pas de dette, elle peut donc emprunter aux imprimeurs. En 2012, Marine Le Pen fait un bon score à la présidentielle. Il faut organiser les législatives qui ont lieu 2 mois après et qui dit campagne, dit matériel de campagne. Des affiches, des sites, des tracts ou encore des cartes postales personnalisées pour les présidents, pour les candidats présents dans la totalité des circonscriptions. Jeanne s'engage auprès des candidats à rembourser ceux qui font moins de 5% et dont les frais de campagne ne sont pas pris en charge par l'État. Et le FN s'engage à son tour à rembourser Jeanne en cas de déficit global. Sauf que, la présidente le remarque, cette dernière précision ne figure pas dans la convention préalable. signé entre Jeanne et le FN. Valérand Saint-Just botte en touche. On a connu le niveau global de déficit que des mois après, tente-t-il de se justifier. Vous voulez dire que l'engagement du FN de rembourser Jeanne était uniquement moral, demande la présidente. Voilà, répond Valérand Saint-Just, qui semble, pour la première fois, chercher ses mots.
Merci beaucoup Antoine Marette en direct du tribunal correctionnel à Paris. Nous inaugurons aujourd'hui les jeudis des municipales avec en première étape la ville de Lyon, capitale des Gaules, et sa métropole pour laquelle il va y avoir une élection séparée. C'est une première en plus de l'élection classique du maire de Lyon, métropole où vont s'affronter deux candidats marcheurs, Gérard Collomb d'un côté et David Kimfeld, plus d'autres candidats qu'on connaîtra sans doute d'ici le scrutin. Mais loin de cette bataille, nous partons ce soir pour Villeurbanne, 150 000 habitants, à la rencontre de Jean-Paul Brett, le maire socialiste sortant, qu'a rencontré Christophe Vincent.
À 73 ans, Jean-Paul Brett pense avoir fait son temps, mais sa décision n'a pas été facile à prendre.
Vous dire que ça ne m'effraie pas un peu serait mentir, mais il suffira simplement de vivre pleinement et intensément ma vie.
Avenue Henri Barbusse, au cœur de Villeurbanne, beaucoup regrettent sa décision.
Il s'arrête malheureusement. Je trouve qu'il a gardé le côté village de Villeurbanne. C'était un bon maire. Quand il se trompe, il l'avoue. Et puis, il est content de ses réussites.
L'économie de la ville, il la gère pas trop mal.
Villeurbanne, c'est une ville qui est au niveau culturel, qui bouge beaucoup, il y a beaucoup de festivals.
Depuis un siècle, Villeurbanne a absorbé des vagues d'immigrés, italiens, espagnols, arméniens, turcs, algériens, un peu comme Marseille. La boboïsation gagne, mais la tradition ouvrière demeure, comme l'explique le maire.
Cette ville modeste, qui est une ville d'accueil, avec quand même beaucoup de gens qui sont venus d'ailleurs et qui sont devenus d'ici, c'est vrai encore aujourd'hui. C'est une ville qui a quand même une grande générosité, et moi elle m'a appris, je suis plus généreux aujourd'hui que je ne l'étais quand je suis arrivé à 18 ans, c'est déjà pas mal.
Coincé entre Lyon, 500 000 habitants, et des villes de 50 000, Villeurbanne cherche à exister et la métropole créée par Gérard Collomb ne convient pas à Jean-Paul Brett.
Ce qui fait la richesse d'une métropole et d'une agglomération, c'est quand même la richesse et le dynamisme des territoires qui la composent. Et la tendance naturelle de Lyon hier, de la communauté urbaine et de la métropole aujourd'hui, c'est d'imposer un peu un modèle unique. C'est un facteur qui n'est pas un facteur d'élévation, si vous voulez.
Cette métropole attise les convoitises, d'où la bataille entre le président sortant, David Kimmelfeld, et Gérard Collomb. Jean-Paul Brett les renvoie dos à dos.
Gérard Collomb, je pense qu'il aurait été raisonnable pour lui de s'arrêter, pour entamer un quatrième mandat, pour le terminer octogénaire. Il aurait dû un peu plus réfléchir, mais je pense qu'il y a un côté addictif que je peux ressentir, mais on peut avoir de l'addiction et on peut essayer d'en sortir. David Kimmelfeld, ben, il a pris goût à la présidence de la métropole. Il a pensé sans doute que Gérard Collomb avait fait son temps. Il n'a pas tout à fait tort là-dessus. Après, ça reste des personnes qui ont rejoint La République En Marche. Ils sont des adversaires politiques, donc qu'ils se débrouillent.
Jean-Paul Brett met en avant ses réalisations en matière culturelle, d'environnement et d'innovation sociale et il espère voir le socialiste Cédric Van Stevendel lui succéder.
Et prochaine étape, jeudi 14 novembre, France Culture sera à Rouen. Autrefois, on parlait de coma dépassé, aujourd'hui de mort cérébrale. Autrement dit, quand le cerveau ne contrôle plus aucune de nos fonctions vitales, pas même la respiration. L'OTAN est en état de mort cérébrale, a dit Emmanuel Macron dans les colonnes de The Economist. L'interview date du 21 octobre. Le président français y fait le constat que l'Alliance Atlantique, dont le traité a été signé en 1949, est décidément en très mauvaise santé, Nathalie Hernandez.
Les mots sont tranchants. Emmanuel Macron pose sans détour la question de la survie de l'Alliance Atlantique, en particulier face à la position des États-Unis. Donald Trump est un président qui ne partage pas l'idée du projet européen et sa politique se désaligne de ce projet, assène le chef de l'État français, rappelant le départ de Syrie des troupes américaines et en parallèle l'offensive de la Turquie dans le nord-est du pays. Le président français enfonce même le clou, estimant qu'il n'y a eu aucune planification ni coordination de l'OTAN face à cette opération militaire d'Ankara. Il est vrai que depuis 2 ans, Donald Trump ne cesse de mettre en garde les autres pays de l'OTAN. Leur effort financier est insuffisant et l'Amérique est toujours le plus gros contributeur. En mai 2017, le président américain a même menacé de ne plus se plier à l'article 5 de l'Alliance, article qui engage toutes les nations à venir en aide à l'un des membres qui serait attaqué. Emmanuel Macron doute d'ailleurs aujourd'hui de son efficacité, Car que faire, demande-t-il, si la Turquie est à son tour prise pour cible? Pour le président français, cela réveille une prise de conscience, feront bouger les lignes. Pour cela, il faut retrouver une souveraineté militaire européenne et rouvrir un dialogue stratégique avec la Russie. Ne pas le faire, conclut Emmanuel Macron, serait une faute énorme.
Nathalie Irlandaise, et le prochain sommet de l'OTAN se tient dans un mois à Londres. C'est la plus lourde peine jamais prononcée par la CPI. La Cour pénale internationale vient de condamner l'ex-général Ntaganda à 30 années de prison. Nadine Epstein, il s'est rendu coupable de 18 chefs de crime en République démocratique du Congo. C'était dans les années 2000.
Le juge qui a annoncé la condamnation de la CPI a précisé, je cite, « aucune circonstance atténuante n'a pu être trouvée et les actes commis par Bosco Ntaganda justifient qu'il soit condamné à cette peine, la plus lourde jamais prononcée par la juridiction internationale ». L'ex-général de l'armée congolaise et ses troupes, les Forces patriotiques pour la libération du Congo, ont massacré plus de 60 000 civils, selon les ONG, dans la région riche en minéraux Ituri, dans le nord-est du pays. Ils sont aussi responsables des viols d'enfants, soldats enrôlés de force en République démocratique du Congo. Autant d'atrocités qui lui valent d'être appelé Terminator. Âgé de 46 ans, il a déjà passé 6 années en détention à La Haye depuis son transfert à la Cour pénale internationale. En 2013, il avait demandé lui-même son transfèrement à la CPI après avoir fui son pays et s'être réfugié à Kigali au Rwanda. La condamnation de Ntaganda envoie un message fort indiquant que même les personnes considérées comme intouchables peuvent un jour être amenées à rendre des comptes, s'est réjoui Human Rights Watch pour l'ONG. Même si la douleur de ces victimes ne peut être effacée, celles-ci peuvent éprouver un peu de réconfort en constatant que la justice prévaut.
Nadine Epstein. Fin juillet, le département éthique de l'Agence des Nations Unies qui s'occupe des réfugiés palestiniens parlait d'abus de pouvoir commis par un petit groupe de hauts fonctionnaires en interne et de népotisme. Conséquence, le patron de cette agence onusienne, le Suisse Pierre Krehenbühl, vient de démissionner. Il fragilise un peu plus avec son départ ce mécanisme international qui porte à bout de bras 5 millions de réfugiés palestiniens dans le monde. En Cisjordanie, les réactions à cette démission sont contrastées, comme a pu le constater sur place Marine Vlaovic, correspondante de RFI et de France Culture.
Il se tient dans une ruelle étroite du camp d'Alamari, où s'entassent plus de 6000 habitants dans moins d'un kilomètre carré. Ahmad Zaidan a travaillé plus de 30 ans dans une école de l'UNRWA. C'est sa vie, affirme ce retraité, qui regrette le départ de Pierre Krehenbühl.
Il a travaillé pendant de nombreuses années. Il a essayé de faire de son mieux pour trouver des financements pour l'agence, alors que beaucoup de pays veulent sa fermeture pour des raisons politiques.
Mis en cause pour abus d'autorité, l'ex-commissaire général est aussi celui qui a su maintenir le cap malgré l'arrêt des contributions américaines il y a bientôt 2 ans. Une décision qui a plongé l'agence dans une crise historique et c'est surtout ce qui inquiète Walid Ahmad.
L'UNRWA, ce n'est pas qu'une seule personne, il y a aussi d'autres dirigeants. Mais comment vont-ils pouvoir poursuivre leur travail et continuer à être aux côtés des Palestiniens? C'est ça le problème.
Santé, éducation ou encore infrastructure, l'agence apporte des services indispensables aux réfugiés. C'est pour cette raison que des employés, sous condition d'anonymat, se disent soulagés par cette démission qui permettra à l'agence de redorer son image. Certains reprochent à Pierre Krehenbühl de ne pas s'être expliqué ou mis en retrait lorsque le scandale a éclaté l'été dernier, fragilisant ainsi l'institution et donnant du grain à moudre à ses détracteurs qui demandent son démantèlement pour remettre en cause le droit au retour des réfugiés palestiniens sur leur terre.
Marine Vlaovic. Pour terminer, nous partons à Bruxelles accompagner quelques eurodéputés qui remplissent leur caddie. L'objectif est de promouvoir le logo Nutri-Score qui existe en France depuis 2 ans, mais qui n'existe pas à l'échelle européenne. L'Espagne a accepté par exemple d'entrer dans le processus, mais à condition qu'on révise le score attribué à l'huile d'olive, et l'Italie continue à freiner. C'est un reportage d'Angélique Bouin.
Campée devant le rayon des cornflakes, l'eurodéputée verte française Michèle Rivasi fait son marché et sa démonstration entre 2 produits est implacable.
Ici, par exemple, vous avez toute une série de muesli avec noisettes, chocolat, etc. Certains sont A, d'autres sont B. Vous voyez, c'est marqué. Donc moi, après, je peux... Vous voyez, j'ai un choix éclairé. D'autres sont C. Et puis, je regarde plus haut, je vois plein d'autres produits avec des couleurs lumineuses, tout, mais il n'y a pas de Nutri-Score. Donc je regarde sur une application, puisqu'il y a des applications spéciales qui montrent à quel niveau on est. Et bien vous voyez là, à base de chocolat, on est à D. ça n'est pas marqué. De mettre les ingrédients, c'est obligatoire. Sauf que c'est caché, c'est derrière et c'est tout petit. Donc ce n'est pas une bonne information du consommateur.
Seuls 25% des produits sont étiquetés en France, un pays pourtant en avance sur le sujet, comme d'ailleurs la Belgique, fait remarquer l'élu. L'Italie est encore à la traîne. Les eurodéputés militent donc pour une obligation à l'échelle européenne, tout comme Monique Goyens, venue rencontrer des journalistes dans le supermarché, la directrice générale du Bureau européen des consommateurs, qui regroupe 43 associations nationales, défend elle aussi Nutri-Score.
Pour les organisations de consommateurs, c'est vraiment le meilleur système qui existe à l'heure actuelle. Et donc, le consommateur va faire des choix et va, en fait, ça va encourager les entreprises à changer de catégorie de score et ça va les encourager à reformuler leurs produits, à mettre moins de sel, moins de sucre, moins de matières grasses, tant que ce soit possible, bien sûr.
Et pour que la Commission européenne lance le processus législatif, il faut que la pétition mise en ligne sur son site recueille 1 million de signatures dans au moins 7 États membres.
Angélique Bain-Bouin à Bruxelles. Un tout petit mot du temps, très rapide, car il va faire mauvais demain sur toute la France, avec des petites gelées jusqu'à moins 2 degrés du côté du sud-ouest.